Voilà, frères et sœurs, nous avons tous en mémoire ces images que nous avons vues dans l'enfance, de cette arche qui vogue sur l'eau, avec Noé, les petits animaux qui passent leur tête par la fenêtre, la colombe avec son rameau d'olivier, et puis bien sûr, le bel arc-en-ciel. Oui, nous avons tous en image cette arche de Noé dans laquelle les animaux ont trouvé refuge. Et pourtant, à l'envers du décor, eh bien, je crois qu'il y a une petite fille qui a envie de bouger, oui. C'est un peu long, hein. Voilà, et pourtant derrière cette image, eh bien, nous pouvons voir aussi un Dieu en colère, un Dieu qui détruit. Je vais tenter, en trois points, de vous montrer que ce Dieu-là n'est pas tant un juge impitoyable qu'un médecin bienveillant, même s'il est en colère. Oui, Dieu est en colère au moment où le récit du déluge commence. Dieu est en colère et se demande ce qu'il reste de sa création. Il l'avait pourtant créée si bonne qu'il avait cru pouvoir se reposer sur ses deux oreilles pour l'éternité. Mais dès le début, les choses se gâtent. D'abord, Adam et Ève qui se rebellent, puis Caïn, leur fils, qui ne trouve rien de mieux qu'à tuer son frère. Et à présent, c'est comme si le mal s'était répandu comme une traînée de poudre pour contaminer toute la terre. C'est une véritable maladie, une épidémie, une gangrène. Si le mal n'est pas enlevé, c'est comme un pied ou une jambe qui ne sont pas amputés à temps. Tout le corps, toute la création risque de disparaître. Alors Dieu veut sauver ce qui peut l'être encore, ce qui est encore bon et qui pourrait redonner une vie. Noé, sa famille, avec un échantillon de tous les animaux. Dieu traite alors le mal par le mal. Il traite la violence des hommes par la violence et le meurtre par la condamnation à mort. Le traitement est radical. Dieu, après le déluge, semble satisfait. Noé est sorti de l'arche avec tout l'échantillon de sa création dans un environnement totalement renouvelé. Noé a élevé un autel en sacrifiant quelques animaux pour remercier Dieu. Dieu est satisfait, mais pas totalement. Il comprend que le mal n'est pas complètement éradiqué. Il est au cœur de l'homme. Peut-on traiter le mal par le mal? Faut-il être aussi radical qu'il l'a été? Peut-être Dieu réalise-t-il alors que l'extrême violence dont il a fait preuve laisse des traces indélébiles. La violence de Dieu serait-elle aussi contagieuse? Mauvaise pour l'homme? Le radicalisme, en tout cas, est absurde. Le monde n'est ni tout beau, ni tout moche, ni tout blanc, ni tout noir. Le monde est en nuances, tout en couleurs, qui, selon qu'elles sont exposées à la lumière, mélangées ensemble à la lumière, donnent le blanc, ou mélangées ensemble à l'obscurité, donnent le noir. Comme les couleurs de l'arc-en-ciel. Puisque le mal est au cœur de la création, Dieu choisit alors de faire alliance avec cette création. Il offre une loi à Noé afin que les hommes puissent repérer ce qui est bon pour la création. Et alors il place un arc de multiples couleurs dans le ciel, comme pour se rappeler de l'absurdité, de la radicalité. Il ne traitera plus le mal par le mal, il en prend l'engagement à tout jamais. Pour traiter le mal, Dieu donne alors un médicament. Ce médicament s'appelle la loi. Mais, quelques siècles après, Dieu se rend compte qu'il est toujours en colère. Il n'a plus jamais fait preuve de la radicalité du déluge. Il a offert par deux fois une loi pour éviter que les hommes ne s'entretuent, d'abord à Noé, puis à Moïse. Mais les hommes l'ont perverti. Ils justifient leur manque d'amour, leur manque de bienveillance envers le prochain, en respectant la loi à la lettre. Un peu comme si un chauffeur de voiture justifiait le fait qu'il a écrasé un piéton parce que celui-ci traversait en dehors des clous. Un peu comme ce sport que nous pratiquons tous, plus ou moins, et qui consiste à se servir de la loi pour mieux se servir ses propres intérêts. Les hommes ont respecté la lettre, certes, de la loi, mais ils ont perdu l'esprit de vie et d'amour avec lequel Dieu avait rédigé cette loi. Alors cette fois, Dieu ne va pas traiter le mal par le mal, comme il l'avait fait, par la radicalité de sa violence. Il ne va pas non plus traiter le mal par l'administration d'une loi, mais il va le traiter par l'amour. Et comment ? En envoyant son fils qui, par amour, va accepter de mourir sur la croix afin que tous les hommes, mais absolument tous, soient sauvés. En Jésus, Dieu se donne lui-même en traitement, en médicament. Dieu, en Jésus, s'engage totalement. Il met les mains dans le cambouis, si l'on peut dire. Il se mouille. Jésus, c'est l'image de Noé inversée, puisqu'il accepte de mourir pour que toute la création soit sauvée. Comme si Jésus se noyait pour que tout le monde puisse entrer dans le bateau. Dieu, par Jésus, traite le mal par l'amour. Et c'est en demeurant attaché à cet amour, comme un sarment à la vigne, que les êtres humains peuvent porter du fruit. Alors voilà, frères et sœurs, vous me direz peut-être, qu'est-ce que tout ceci a à voir avec le baptême ? Si je reprends l'histoire de l'arche de Noé, le lien avec le baptême n'est pas qu'une histoire d'eau. Cette histoire a à voir avec le sens même du baptême. Être baptisé, c'est finalement passer par les eaux du déluge pour que meurent en nous toutes nos illusions de puissance, pour que nous soyons débarrassés de l'idée que nous devons nous réaliser par nous-mêmes et que nous ne dépendons de personne. Être baptisé, c'est entrer dans l'alliance avec Dieu et se reconnaître comme son enfant, comme dépendant de lui, attaché à sa vigne. Être baptisé, c'est ainsi s'attacher à la croix. La croix comme humanité fragile et incarnée. Être baptisé, c'est nous laisser irriguer par l'amour de Dieu. Car c'est lui qui, par la puissance de son amour, nous fait renaître à la vie. Par le baptême, la mort nous est donnée à vivre afin que, en Jésus, nous ressuscitions dans la lumière. Alors, frères et sœurs, demeurons dans son amour. Amen.